Le journal.
Radio Capi. Oh, Capi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Nouvelle attaque la nuit dernière des présumés ADF dans le secteur de Rwenzori au nord Kivu. Bilan, plus de 10 personnes tuées, rapporte la société civile locale. Elle accuse les services de sécurité d'ignorer les alertes de la population sur les mouvements de ces rebelles dans la région. Vote hier à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi de 2011 relative aux finances publiques. En effet, depuis la promulgation de cette loi, la RDC demeure dans le mode de gestion budgétaire axé sur les moyens en dépit de l'expiration du premier moratoire fixé en 2019. C'est ce qu'a dit le ministre du Budget, Aimé Bogi. Et puis, 7 mois déjà passés depuis le début de recrutement des jeunes pour intégrer les FARDC, mais parmi eux figurent des mineurs. Ainsi, la MONUSCO et ses partenaires s'emploient à séparer ces enfants des nouvelles recrues. Pour en parler, nous recevons le directeur chargé de l'information, sélection et orientation à la 34e région militaire des FARDC au Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du territoire de Beni au Nord Kivu. Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF a fait une dizaine de morts la nuit dernière dans le secteur des Rwenzori. La société civile qui livre l'information accuse les services de sécurité d'ignorer les alertes de la population sur les mouvements de ces rebelles dans la région. Pendant ce temps, une psychose règne dans cette zone et on signale un déplacement de la population. Le récit de Marc Marofimbo, rendu par Sadiki Aboubakar.
La nouvelle société civile congolaise dans le secteur des Rwenzori indique que c'est aux environs de 20 heures locales que les rebelles des ADF ont fait incursion au village des Mukokoma dans la localité de Nzenga Kasusu. Ces derniers ont tué à l'arme blanche et par balle 12 civils et blessé 2 autres. Bilan encore provisoire indique Meleki Mulala, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans le secteur des Rwenzori. Il ajoute que les recherches se poursuivent et de nombreux habitants du milieu manquent toujours à l'appel. Par ailleurs, une forte tension s'observe dans cette région depuis ce matin, indique la nouvelle société civile congolaise locale. En effet, c'est depuis lundi dernier que l'armée a été alertée par la population sur la présence de ces rebelles dans la zone. Jeudi dernier, poursuit cette structure citoyenne, des civils de la localité des Moulois, où se trouve une position des FARDC, se sont échappés des mains de ces ADF et alertés l'armée une fois de plus. Ces 12 morts auraient pu être évitées, conclut la nouvelle société civile congolaise. Contacté, le porte-parole des opérations militaires dans la région confirme cette attaque et indique que l'armée est aux trousses de ces rebelles.
Restons à Beni. Insécurité grandissante à Beniville. Le réseau territorial de plaidoyer hausse le ton. Son dernier monitoring de la situation sécuritaire effectué entre avril et juin 2023 révèle plusieurs incidents caractérisés par des tueries des civils et cambriolages des maisons. Comme solution, cette structure recommande la mise en place d'une mission d'évaluation du travail des services de sécurité. Guylaine Kassassia a parcouru ce document.
Dans ce document adressé à l'autorité urbaine et rendu public ce vendredi, le réseau territorial de plaidoyer qui regroupe les acteurs de la jeunesse, de la société civile et des organisations des groupes thématiques de la ville et territoire de Beni dit avoir enregistré 51 ménages victimes d'incursions nocturnes d'hommes armés. Au cours de la même période, 8 civils ont été tués par de bandits armés, 15 cas d'agression physique avec blessures. Côté bien matériel, le réseau territorial de plaidoyer dit avoir comptabilisé une somme totale de 12 485 $ américains emportés par les malfrats, ainsi qu'une vingtaine de téléphones cellulaires. Ces cas ont été enregistrés dans toutes les 4 communes de la ville. Cette situation qui affecte la population de Beni contraint certains habitants à quitter leurs habitations chaque soir par crainte d'être visités par ces bandits. Il s'installe par ailleurs et petit à petit un climat de méfiance entre les civils, les services de sécurité, y compris les animateurs de l'état de siège, indique ces documents. Face à cette situation, les réseaux territoriaux de plaidoyer recommandent entre autres aux autorités la mise en place d'une mission d'évaluation du travail des services de sécurité en impliquant les chefs de base. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Sud Kivu, les femmes leaders de la RDC, du Mali et de la République centrafricaine s'engagent dans le processus de médiation et négociation dans les zones des conflits armés. Ces femmes demandent aux gouvernements africains de respecter tous les engagements pris en matière de protection des droits des femmes. Elles se sont exprimées à Bukavu à l'issue des travaux de formation sur le leadership, la négociation et médiation. Un extrait de la déclaration finale lue par Madame Diane Perpétue Adoun de la République centrafricaine. Elle est au micro de Emmanuel et la Mégie.
considérant le rôle clé des femmes dans la négociation et médiation des conflits en Afrique, considérant tous les dispositifs réglementaires pris par les États africains, Mali, RDC, RCA, sur les résolutions 1325, la Charte africaine de droits de l'homme, considérant la situation sécuritaire dégradante liée aux conflits armés et les violences sexuelles qui touchent les régions, en particulier les femmes et les enfants. Reconnaissant les vulnérabilités des femmes, accentuées par des dégradations sécuritaires et absence des appuis psychologiques, psychosociales et l'indisponibilité des ressources aux organisations des femmes défenseurs de droits humains, reconnaissant le rôle prépondérant des femmes dans les processus de rétablissement de la paix et l'importance de la femme dans les instances décisionnaires, réaffirmant la nécessité de renforcer un cadre de collaboration et de coordination. Nous, femmes de RDC, RCA, Mali, recommandons aux États de respecter les engagements internationaux, régionaux et nationaux en matière de protection des droits des femmes, luttant contre les violences sexuelles dans les zones de conflit.
Par ailleurs, les archevêques et évêques membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, demandent au président burundais et président en exercice de l'EAC de s'impliquer davantage dans la recherche de la paix dans la région. Ils l'ont fait savoir dans un mémorandum lui adressé à l'issue de la réunion du comité permanent de l'EAC, réunion tenue du 29 mai au 2 juin dernier au Burundi. L'ACEAC réunit le Burundi, la RDC et le Rwanda. Les évêques membres de ce regroupement se disent rassurés par la promesse qui leur a été faite par le numéro 1 burundais. On écoute l'abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire général de l'ACEAC. Il est au micro de Denise Lukesso.
La situation sécuritaire ne fait que se détériorer dans nos trois pays et surtout dans les axes transfrontaliers. Et cela a eu des conséquences beaucoup plus néfastes pour ce qui est de la République démocratique du Congo, où on constate un activisme outré, le M23. Alors les évêques voulaient amener le message de paix auprès du président burundais, président de l'EAC, à s'impliquer dans la recherche des voies et moyens pour la paix dans la région, mais ils voulaient aussi s'enquérir de l'avancement des pourparlers de paix dans cette région. Un mémo lui a été remis qu'il devra lui-même partager avec ses collègues chefs d'État, mais de façon générale, les évêques ont apprécié sa disponibilité et sa connaissance des enjeux sociopolitiques de la région. Il a dit que l'engagement semblait être assez conclu dans un consensus. Le problème se posait pour le pré-cantonnement, mais il y avait une volonté beaucoup plus générale pour avoir un cessez-le-feu effectif, mais ils vont peut-être trouver les moyens de recourir à une force contraignante.
Je vous l'ai dit dans les titres, l'Assemblée nationale a voté hier à l'unanimité le projet de loi portant modification de la loi de 2011 relatif aux finances publiques dans son économie. Le ministre du Budget, Aimé Bogi, a souligné que la loi de 2011 consacre une gestion budgétaire axée sur les résultats, notamment à travers l'instauration des budgets programmes. Mais depuis sa promulgation, la RDC demeure toujours dans le mode de gestion budgétaire axé sur les moyens en dépit de l'expiration du premier moratoire fixé en 2019, souligne Aimé Bogi. D'autres détails avec Michel Kifindangoy.
Le basculement au budget programme permettra à la RDC d'avoir un mode de gestion par lequel l'allocation des crédits budgétaires sera désormais opérée au profit d'actions à mener et non plus aux institutions comme c'est le cas actuellement. Ce mode de gestion, qui devrait entrer en vigueur en janvier 2024, est repoussé en 2029, explique le ministre du Budget, Aimé Bogi.
Les modifications apportées par ce projet de loi établissent une démarcation nette entre les crédits mis à la disposition des entités présentées en programme et soumis à la mesure de la performance et ceux des institutions constitutionnelles regroupées dans des dotations et ne faisant pas l'objet d'évaluation.
Et c'est pour la deuxième fois que le gouvernement sollicite cette prorogation, souligne le député Pierre Kangoudia, ancien ministre du Budget.
Mais cette limitation n'est pas possible parce que toutes les institutions n'ont pas connu la limitation nécessaire. Donc, on n'est pas prêt. Moi-même, quand j'étais au gouvernement, j'étais venu solliciter une prorogation de 5 ans. C'était en 2018. En 2023, ça fait 5 ans.
Pierre Kangoudia déplore qu'il n'y ait pas vraiment eu un débat technique dans le processus de vote de cette loi, ce qui n'a pas permis beaucoup de députés à mieux cerner la problématique évoqué dans la révision de ces textes.
Dans l'actualité, sachez aussi que les infirmières et infirmiers de la RDC accordent un ultimatum d'une semaine au gouvernement congolais pour répondre à leurs revendications au risque d'observer une grève générale et sèche sur toute l'étendue de la RDC. Ils réclament entre autres la paie complémentaire comme convenu aux accords de Bibwa et le retrait de la proposition de loi interdisant la grève dans le secteur de la santé initiée par le député national Guy Mafuta. C'est ce qu'a fait savoir au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa, Joseph Kibangula, secrétaire général de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo. On l'écoute dans ses propos recueillis par Junior Ika.
Notre déclaration concerne 4 points. Le premier point, la paix complémentaire d'ici le 15 juin. Deuxième élément, la publication des actes administratifs, notamment l'admission sous statut, la promotion en grade la semaine qui vient. Quatrième élément, retirer le projet de loi Guy Mafuta qui a tendance à interdire la grève dans les secteurs de la santé. Si cela ne se fait pas dans les délais que nous accordons au gouvernement, à partir de lundi 16 juin, les syndicats des infirmiers appelleront les membres à la grève parce que c'est à leur demande que nous allons le faire.
Direction l'Ituri, la route Iga Barrière Mongwalou, longue de 55 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou, impraticable pendant environ 3 ans et désormais réouverte au passage. C'est grâce aux travaux de la réhabilitation de ce tronçon par le gouvernement provincial et cela a des conséquences positives sur l'économie dans plusieurs entités dans la région. Les prix de plusieurs produits de première nécessité sont revus à la baisse sur les marchés dans une dizaine de localités le long de cet axe routier. Martial Kizabiamou, reportage.
Il suffit de mettre quelques heures pour atteindre cette cité minière située à 85 km de Bunia. La remise en état de cette route a des conséquences positives sur le plan socio-économique. Les prix des produits de première nécessité ont sensiblement diminué sur le marché et même des carburants dont environ 10 camions ont été dépêchés mardi par les présidents des importateurs des produits pétroliers Daniel Mugisa. Un litre de carburant se vend actuellement à 2500 francs congolais au lieu des 5000. Cela a une incidence sur les prix des transports des véhicules et des taxis motos qui sont également arrivés à la baisse presque de moitié. La population locale qui vivait dans des conditions difficiles à cause de la rareté et cherté de certaines marchandises s'en réjouit. La réouverture de cette route permet également au FRDC de mener des opérations contre les groupes armés en vue de permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bounia, Martial Kizabiamonko, Radio Okapi.
En plus bref, sachez que le procureur général près la Cour constitutionnelle, Mukolo Nkokesha, et tous les premiers avocats généraux ont prêté leur serment d'entrée en fonction hier devant le président de la République au Palais du Peuple. Si le mandat du procureur général a été renouvelé pour une seconde fois, les 3 autres sermentés, en l'occurrence Ndaka Matandombi, Bonane Mouola et Madame Massiala Kaza, ont été promus depuis mardi premiers avocats généraux. Ils ont encore 3 ans d'exercice de leurs fonctions. Province du Maniema, 32 prisonniers de la prison centrale de Kindu ont été libérés hier par grâce présidentielle. Ce sont des détenus condamnés à des peines inférieures à 5 ans. La cérémonie officielle de leur libération a eu lieu sur place à la prison en présence des autorités judiciaires et politico-administratives. Florence Kiza, reportage.
Selon le procureur général, pour ceux des prisonniers qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle, certains critères ont été retenus, notamment ceux qui n'ont pas commis des infractions de violence sexuelle, détournement des fonds et de l'escroquerie ou vol. Sami Bundouki exhorte ses ex-prisonniers à ne plus revenir sur les mêmes infractions.
Ceux qui sont libérés, c'est ceux qui sont condamnés à la peine de moins de 5 ans. Ce sont ceux qui n'ont pas commis les infractions de violence sexuelle, de détournement, de concussion. Voilà. Le message, c'était qu'il devient de bons citoyens. Vous savez, on dit que le lieu carcéral, c'est un lieu de rééducation. Donc, le temps qu'ils ont passé ici, ça leur a permis d'être rééduqués. À la sortie, ils ne vont plus revenir sur ce même fait qu'on leur a reproché. Parce que s'ils revenaient à récidiver, alors qu'ils sachent que le centre sera encore là pour pouvoir le recevoir. Donc, ils sont devenus, ou ils doivent devenir des modèles pour la société et même être des exemples.
Conseil réitéré par le représentant du gouverneurs intérimaires. Le ministre provincial du budget les invite à changer leur comportement. À noter que, malgré la libération de ces 30 détenus, la prison centrale de Kindu compte toujours plus de 400 détenus pour une capacité d'accueil de 250 places. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Amnesty International exige une enquête indépendante après les troubles qui ont secoué le Sénégal la semaine dernière. Cette ONG internationale a indiqué hier avoir décompté 23 morts de plus que le bilan officiel des autorités. En effet, le Sénégal a été en proie du 1er au 3 juin à ses pires troubles depuis des années, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. L'annonce de la condamnation a déclenché des violences qui ont fait officiellement 16 morts. Cette décision de justice rend inéligible pour la présidentielle de février 2024 l'opposant Sonko, une personnalité populaire dans la jeunesse notamment.
L'invité.
Depuis novembre 2022, l'armée a lancé au Nord Kivu le processus de recrutement des jeunes pour intégrer les FARDC. Cependant, parmi les nouvelles recrues figurent des mineurs. Avec le soutien de la MONUSCO et ses partenaires, ces enfants sont séparés des nouvelles recrues. 7 mois après le lancement de ce recrutement, comment évolue ce processus et combien d'enfants ont déjà été séparés des nouvelles recrues des FARDC par la MONUSCO? Réponse avec le directeur chargé de l'information, sélection et orientation à la 34e région militaire des FARDC au Nord Kivu. Le colonel Faustin Dakala, invité de ce journal, répond aux questions de Martial Papi Moukeba.
Colonel Faustin Dakala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
À ce jour, comment évolue le processus des recrutements de l'armée au Nord Kivu?
Les recrutements évoluent convenablement depuis le mois de novembre 2022, lors de la mobilisation générale de la jeunesse pour emboîter le pas au FARDC pour se faire recruter, vu l'agression de notre pays par des gens mal intentionnés. Tout va normalement.
En termes de chiffres, est-ce qu'on peut avoir jusque-là les nombres des nouvelles recrues qui ont accepté ou qui ont répondu à l'appel du chef de l'État pour intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo?
Le Nord Kivu est subdivisé en 2 groupes. Nous avons le Grand Nord et le Petit Nord. Alors pour le centre de regroupement du Petit Nord, nous avons Goma. Et pour le Grand Nord, le centre de regroupement se trouve à Beni et spécialement au camp général Chico à Mambango. À Goma, dans le Petit Nord, nous avons 4254 jeunes qui sont pour le moment au centre d'instruction de Kitona et de Kamina. Au niveau de Beni, pour le centre de regroupement de Beni, nous avons déjà fait 2 évacuations. La première était de 925 jeunes qui étaient partis au centre d'instruction de Lukusa Kisangani. Il y a 5 jours, nous avons 150 qui sont partis à Kindu. La haute hiérarchie, l'état-major général, a mis à la disposition du Grand Nord 2 aéronefs qui sont là seulement pour l'évacuation des restes des jeunes qui sont encore au centre de Mambango. Et là, il y a 5 jours, nous avons fait évacuer 150 et tout de suite là, vous voyez devant nous, il y a 100 recrues qui attendent la rotation sur Kindu.
Donc on est à plus de 5000 recrues au Nord Kivu qui ont intégré les FARDC depuis novembre 2022.
Tout à fait, nous avons dépassé un effectif de 5000 jeunes, garçons et filles, qui ont adhéré volontairement, qui ont accepté l'appel du chef de l'État.
Parlant des femmes, est-ce que vous avez les chiffres des femmes qui se trouvent parmi ces nouvelles recrues de l'armée?
Oui, tout à fait. Pour Goma, donc pour le Petit Nord, nous avons fait évacuer 67 filles au centre d'instruction de Kitona et 58 filles au centre d'instruction de Kamina. Kisangani, pour le Petit Nord, nous avons 21 jeunes filles qui sont déjà au centre d'instruction de Lokosa. Et présentement devant nous, nous avons encore 5 jeunes filles qui attendent la 3e vague ici de Beni pour Kindu.
Avant l'évacuation ou le transfert de ces nouvelles recrues des centres de regroupement vers les centres d'entraînement, il y a toujours un processus de screening ou de vérification pour voir si parmi elles, il n'y a pas des enfants. Et ce processus-là est fait en collaboration avec la MONUSCO. À ce jour, Vous avez réussi à extraire combien d'enfants parmi ces nouvelles recrues des FARDC?
Nous ne pouvons pas évacuer nos recrues dans différents centres d'instruction sans qu'il y ait un screening. La MONUSCO a toujours été présente à chaque screening. À Goma, la MONUSCO et nos partenaires de l'UNICEF ont extrait 582 enfants. À Beni, on a retiré 51 enfants. Il est strictement interdit, nous, attaquer recruteurs, nous, attaquer l'état-major général, et surtout, en l'occurrence, la 34e région militaire, on ne peut pas faire évacuer, accepter un mineur pour les centres d'instruction.
Votre message à tous ces jeunes qui veulent intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo?
Si nous avons des jeunes qui traînent encore les pas, partout où il y a, que ce soit un état-major de l'armée ou de la police, là où il y a un bureau administratif, ces jeunes sont les bienvenus, on va les accueillir. Donc nous ne pouvons pas nous arrêter jusque là. Au Petit Nord, ils sont orientés au niveau de l'état-major de la 34e région militaire. Et au Grand Nord, c'est à Beni qu'ils seront orientés et ils seront les bienvenus.
Colonel Faustin Ndakala, merci.
Je vous en remercie, monsieur le journaliste.
Le directeur chargé de l'information, sélection et orientation à la 34e région militaire des FARDC au Nord Kivu répondait aux questions de Martial Papi Mukeba. C'est la fin de ce journal coordonné par Noéla Luzitu, Jean-Claude Ciala à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.